because I love music. It's in my head. I can't get it out.
Here we go with Miles Davis and the quintet from Birdland with...
Hey, George, I might leave out number letter F, you know? That might leave out all this part.
The controversial Miles Davis. We call him controversial because some people like him, some people don't.
Et on va donc retrouver Miles Davis en 1949, vraiment un tournant de sa vie, à la fois professionnelle, de son approche du public, de ses ressentiments par rapport à bien des états d'âme qu'il avait, et notamment cette espèce de frustration d'être un musicien noir qui faisait que, malgré tout, il considérait qu'il n'avait pas encore acquis toute la notoriété qu'il aurait aimé avoir auprès des Blancs. Et puis, c'est quand même la période où il vient de quitter Charlie Parker. Alors, c'est évidemment un événement pour lui, parce qu'il a décidé de faire autre chose, vous le savez. Il est parti donc, dans le tête-nette de Tad Dameron. Et puis, va s'en venir un événement auquel il n'avait jamais osé espérer. Il va donc quitter les États-Unis. Il va donc, pour la première fois, partir pour une tournée européenne et notamment pour le Festival de Jazz de Paris avec Tad Dameron. Alors vous imaginez, parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'à cette époque-là, Miles n'a quand même que 23 ans. Par conséquent, jusqu'en présent, il a fréquenté tous les clubs de la 52e rue, quelques petits clubs de Broadway, mais il n'est jamais allé vraiment à l'étranger. Et par conséquent, c'est vraiment une aventure pour lui. Alors partir, notamment avec le quintet de Tad Dameron, c'est bien sûr un événement majeur. Ça le sera d'autant plus qu'il va venir à Paris pour un des premiers festivals de jazz organisé par Charles Delaunay, qui lui a souhaité faire venir donc des musiciens américains, parmi lesquels évidemment Charlie Parker. Et puis il y aura aussi des musiciens qui sont devenus des vedettes. Il y aura Sidney Bechet, il y aura donc Tad Dameron et plein d'autres musiciens, Don Byas également. Et tout ceci va amener Miles Davis à partir donc à la rencontre d'un autre public, cette fois-ci, comme il s'en doute évidemment, composé en majeure partie de Blancs. Le contingent du groupe américain va donc arriver à Paris un jour, la veille avant le concert, et évidemment, il a bien fallu trouver des musiciens, parce que si Charlie Parker avait remplacé Miles par Kenny Dorham et constitué son groupe, eh bien, pour Tad Dameron, c'était un peu une aventure. Il y aura donc Miles Davis. On va recruter également James Moody, qui lui fera partie du contingent américain. Et puis pour la partie, on va dire, on va trouver sur place un bassiste qui aura pour nom tout simplement, il est étudiant au conservatoire de Paris et c'est un monsieur qui ne fera pas une grande carrière. Malgré tout, on peut dire qu'il sera là vraiment pour assister tous ces musiciens. Ce sera Barney Spiller. Et puis il y aura donc comme le dira Albiculaz, l'ami de toujours, Kenny Clark. Alors donc, ce groupe va se produire. Ce sera un événement, parce que la musique qu'ils apportent est une nouvelle musique, une autre approche. Et s'il est vrai que le succès de Sidney Bechet est inébranlable en France, avec notamment ses prestations avec André Reveillotti au Slow Club, avec également Danny Doris, donc à la Huchette, ainsi de suite, donc le jazz Nouvelle-Orléans se porte bien en France. Mais là, on arrive vraiment avec quelque chose de tout à fait différent. Alors, s'il est vrai que Miles et James Moody n'ont pratiquement joué quelques fois dans des jams, mais eux n'ont pas besoin de répétition. Ils vont donc considérer qu'on va attaquer carrément. Ceci, ça va se faire la première fois avec, comme le dira Albiculaz, autour de thèmes bop, et notamment donc avec celui-ci, Good Bait.
For our next selection, we'd like to play an original by Tad Dameron, Good Bait.
Actuellement, l'orchestre bebop de Tad Dameron. Bebop, c'est-à-dire se livrant à la forme d'improvisation la plus moderne du jazz. Cet orchestre est composé de Tad Dameron, un des pianistes de l'école moderne, Miles Davis à la trompette, James Moody, ancien saxophoniste ténor du fameux Gillespie, notre ami Kenny Clark à la batterie et Spiller à la basse. c'était l'orchestre de Tad Dameron et Miles Davis que vous avez entendu dans des improvisations de style tout à fait moderne.
Comme le dit Albicula, des improvisations de style tout à fait moderne, effectivement. Et on peut dire qu'ici, Miles Davis a un peu oublié les phrases qu'il interprétait lorsqu'il était aux États-Unis avec Tad Dameron quelques mois précédemment. Il reprend ici vraiment des phrases bop beaucoup plus construites, beaucoup plus longues. On a l'impression qu'il veut vraiment parler à quelqu'un. Et je crois, mais je n'y étais pas, évidemment, que certainement il voulait montrer à Charlie Parker eh bien, que dorénavant, il était quand même son équivalent au niveau technique et qu'il pouvait se permettre lui aussi de faire des improvisations vraiment de haute qualité et de grand niveau. Alors dans ce thème-là, effectivement, on a l'impression que les deux musiciens, James Moody et Miles, ne jouent pas ensemble. S'il est vrai que James Moody a introduit la mélodie, ensuite ce sera donc Miles qui fera le pont, et puis chacun prenant un ou deux solos, et ils n'interviendront ensemble qu'à fort peu de moments. Alors, bien évidemment, comme vous le savez, donc Miles Davis est beaucoup plus à l'aise, notamment sur les parties les plus lentes, les ballades, on va dire. C'est la raison pour laquelle, dans cette ballade, Don't Play Me, il a souhaité faire abstraction du jeu de James Moody. C'est la raison pour laquelle, eh bien, celui-ci ne joue pas sur thème Don't Blame Me.
Now, Don't Blame Me.
Le même orchestre va vous interpréter maintenant Don't Blame Me.
Grand succès donc pour Miles Davis et le Tad Amron Quintet, donc daté du 8 mai 1949. C'était donc Don't Play Me. Alors c'est passé à la salle Pleyel. Je vous rappelle la compo du quintet, donc Miles trompette, James Moody sax ténor, Tad Amron piano, Barney Spiller donc bassiste et Kenny Clark à la batterie. Alors après, le festival a duré plusieurs jours, pratiquement une semaine. Donc, comme vous l'avez constaté, ce sont des enregistrements faits à partir d'émissions de radio. Par conséquent, on a du mal vraiment à dater ce qui s'est passé durant les différents jours. On considère que ce qu'on va écouter tout de suite après, donc la version de Embraceable You, date du 9, mais rien n'est moins sûr parce qu'évidemment, à l'époque, on ne prenait pas la précaution, et notamment parce qu'il faut savoir que c'était donc enregistré par la radio et que ça n'était ensuite publié sur LP que bien des années plus tard par la firme Columbia. Par conséquent, on a fait ça d'après la mémoire des musiciens ou la mémoire de Miles Davis ou de Tad Amron, et bien évidemment, eux peuvent leur importer le jour où ils avaient produit ceci. Ils savaient simplement que ça s'était produit à la salle Pleyel au Festival de Jazz de Paris, et pour donner essentiel, c'était principalement ce qu'ils pouvaient communiquer. On va retrouver donc le quintet, encore une fois sans James Moody, pour la version de Embraceable You.
Now Embraceable You. Embraceable You qu'interprète maintenant le quintet de Miles Davis et Tad Amron. Thank you.
Emra Sibaldiou, donc par le quartet de Tad Dameron, puisque James Bundy ne jouait pas dans ces deux morceaux que nous venons d'écouter. Par contre, eh bien, Henri Renaud, qui était donc un chroniqueur et critique de l'époque, a sa propre explication que lui aurait donnée quelques années plus tard eh bien, James Bundy. James Bundy lui aurait déclaré eh bien, qu'il était mort de trouille de savoir qu'il allait jouer avec Miles Davis. C'est la raison pour laquelle, sur certains morceaux, il a préféré s'éclipser. D'autres disaient que c'était mal ce qu'il avait écarté. Enfin, je pense qu'à part leurs propres propos, on ne pourra jamais savoir quelle est la véritable raison pour laquelle James Bundy n'a pas joué. On va donc écouter un nouveau thème, une compo de Tad Dameron, qui elle est datée du 8 mai 1949. C'est Lady Bird.
An original written by Tad Dameron, Lady Bird. Thank you.
Lady Bird, donc on entend les applaudissements du public, donc de la salle Pleyel, et effectivement, Miles découvre vraiment un nouveau public en se disant que, eh bien, cette fois, c'est vraiment inespéré pour lui, parce que à côté des succès mitigés qu'il avait donc à New York, ici, il est vraiment la vedette pratiquement. Et durant tout ce festival, eh bien, il va s'employer à montrer qu'il est Miles Davis et que dorénavant, il fait partie de ces jeunes musiciens qui vont le sait-il encore révolutionner le jazz, bien sûr, mais surtout se faire un nom, parce que ce que recherche Miles avant tout, c'est la célébrité. C'est surtout montrer que lui, musicien venu de Saint-Louis, eh bien, peut dorénavant affronter tous les publics, quelle que soit la taille des salles où il va se produire. Et il commence à prendre des solos dans l'aigu, ce qu'il ne faisait pas jusqu'à présent, pour bien montrer que, eh bien, Miles Davis, ce sera Miles Davis et qu'il faudra compter avec lui. On va le retrouver ici dans une autre compo, donc très bebop, de Riftide.
C'est l'étude de Jean-Sébastien Bach, la sensibilité spirituelle de Mozart. Et tout cela reflète l'histoire de l'esprit et les folklores de tous les pays reflètent l'histoire de l'homme. Alors que l'espérait, avec le XXe siècle, de grandes réformes musicales répondant aux grandes découvertes scientifiques du siècle, de la machine, la musique livrée aux mains d'experts alchimistes se confinait dans des alambics sans issue. Mais voici un orchestre qui apparaît. Je laisse à nouveau le micro à mon ami Culaz.
Vous entendez actuellement le quintet de Tad Damron et Miles Davis. C'est un quintet qui se livre à la forme la plus moderne du jazz, au style bebop. Miles Davis à la trompette, James Moody, ancien saxophone ténor de l'orchestre du fameux Gillespie, Tad Damron au piano, Spillane à la basse, et notre ami, je puis dire, puisqu'il est parisien depuis déjà longtemps, Kenny Clark, un des deux meilleurs drummers, probablement, de l'époque actuelle. Voilà Miles Davis. Thank you.
Riftide, thème bop par excellence, dans lequel, effectivement, vous l'avez constaté, donc Miles est bien dialogué avec la batterie de Kenny Clarke. On va donc poursuivre, effectivement, les différents enregistrements de ce festival de jazz avec un thème qui est basé sur les accords de Perdido, peut-être le reconnaîtrez-vous. On lui a donné le nom de Wahoo parce que eh bien, ces musiciens pouvaient jouer n'importe quoi. Certes, Tad Dameron n'avait pas besoin de grand-chose pour créer un autre arrangement. C'est la raison pour laquelle, eh bien, à partir de Perdido, eh bien, il a donc créé ce thème « Wahoo ». Thank you. comme si vous y étiez. Vous écoutez donc la retransmission d'extraits donc du Festival de Jazz de Paris en 1949 avec le quintet de Tad Dameron et Miles Davis. On va poursuivre donc cette retransmission du concert de la salle Pleyel daté du 8, 9, 10, 11, 14 ou 15 mai 49 avec un thème bop par excellence, c'est le Alliance Alley. Ian's Alley, donc par le quintet de Tad Dameron. Alors évidemment, Miles est porté par le public et il va vraiment faire en sorte de dominer de la tête et des épaules donc tous les solos de ce quintet. Mais il faut dire que Kenny Clarke n'est pas en reste. Et puis, allez en don savoir, parce que moi, je trouve que James Moody ne démérite pas pour autant. Il va s'autoriser à intervenir beaucoup plus longuement sur un thème qu'il a longtemps joué avec l'orchestre de Gillespie. L'arrangement avait été fait à l'époque par John Lewis, excusez-moi. Et donc, ce thème-là, c'est évidemment devenu un classique du jazz. C'est tout simplement « All the things you are ». All the Things You Are, donc par le quintet dont de Tad Dameron avec bien sûr Miles Davis et notamment James Moody. Alors, Tad Dameron a bien compris que ce qui séduit le public, c'est vraiment le bop. Et par conséquent, il va décider lui tout seul que pour terminer cette séance, puisqu'on lui a demandé son avis quand même pour les enregistrements. On va donc reprendre vraiment le thème des thèmes parmi les thèmes des Boppers. On va donc revenir un peu aux sessions de Charlie Parker avec cette version, cette fois-ci, de Ornithologie. Ornithologie avec un Miles Davis qui a retrouvé donc toute la flamme et du bop qu'il avait quand il était avec Charlie Parker pour bien montrer qu'il est encore un des maîtres dans ce domaine-là, même si dorénavant on peut percevoir quand même dans son phrasé des éléments qui feront un peu ce qu'il va développer par la suite à partir des années 54, dirons-nous, parce que en 54, vous le savez peut-être, ce sera aussi une évolution chez Miles Davis et par conséquent on sent déjà poindre un Miles Davis complètement mature en sachant pertinemment ce qu'il fait et notamment va placer des styles qui lui seront très personnels mais qui ne seront plus des copies de ce qu'il faisait des pyrotechnies à la Dizzy Gillespie. Non, c'est du Miles Davis pur sucre, pur jus qui fait que eh bien, dorénavant il faudra savoir et compter avec lui parce que Miles vraiment s'affirme dès maintenant comme un des grands maîtres et des grands trompettistes de l'époque du jazz, même si à cette époque-là, on ne pouvait encore savoir qu'il allait devenir effectivement le numéro un de l'instrument. On va donc bénéficier d'un enregistrement supplémentaire, parce qu'il faut savoir ce que vous écoutez là. C'est paru sur le label Columbia. Je vous donne la référence, hein, Columbia JC34804. Le titre complet, c'est The Miles Davis Tadamron Quintet in Paris Festival International de 1949. Et pour le titre qu'on va écouter, The Squirrel, eh bien lui, il est extrait tout simplement d'un album suédois, fantastique, qui lui a pour titre tout simplement Miles Davis Tadamron Sensation 49. Donc, allez savoir pourquoi Columbia n'a pas souhaité avoir cet extrait-là. Peut-être est-ce dû au fait que Fantastic s'est mieux débrouillé que Columbia. Allez donc savoir. On va donc terminer cette séance donc d'enregistrement qui doit dater, à mon avis, cette fois-ci du 14 mai 49 avec The Squirrel.
Une composition de Ted Dameron qui est d'ailleurs son indicatif.